proposée par les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Elles font le marché.
Nous sommes à 2600 euros, une fois.
Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Commissaire-priseur, clerc, galeriste, marchande, conseil, transporteuse, experte, quels sont leurs parcours et leurs vocations? Comment se font-elles un nom? Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ses métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes?
2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
Adjugé 2006, monsieur.
Et ce mois-ci, aux côtés de nos enquêtes et de nos formats courts, nous inaugurons un nouveau format sous la forme d'un portrait. Rencontre avec Isabelle de Maison Rouge, commissaire indépendante, critique d'art et enseignante. Isabelle de Maison Rouge s'intéresse depuis longtemps à la place des femmes artistes au sein de l'écosystème du marché de l'art. Et c'est avec son œil de curatrice qu'elle les met en valeur dans des expositions. La dernière en date, du 5 mars au 7 mai, à l'espace de la topographie de l'art à Paris, a exposé avec un certain succès critique 13 femmes que je cite ici. Corinne Bornier, Céline Cléron, Rachel Labastie, Olga Kisseleva, Léa Lebriconte, Isabelle Lévénèse, Milena Massardier, Myriam Meschita, Orlan, Nazanine Pouyandé, Aïda Patricia Schweitzer, Marilyn Terrier et Brigitte Ziger. Isabelle de Maison Rouge, vous êtes critique d'art, enseignante, autrice et commissaire d'exposition.
Bonjour, merci beaucoup à vous.
J'ai voulu vous inviter Isabelle puisque vous êtes commissaire d'une exposition qui s'appelle « Femmes guerrières, femmes en combat ». Et c'est une exposition qui mettait à l'honneur les femmes artistes. Ça m'a intéressée parce que au sein du podcast « Elles font le marché », nous avions posé dans un podcast précédent la question justement à plusieurs femmes de savoir est-ce qu'une exposition 100% femmes, vous êtes d'accord? Certaines disaient oui, oui, je trouve ça très bien. D'autres disaient plutôt eh bien non, moi je préfère quand même les expositions où il y a aussi des hommes, qui ne soit pas forcément axé uniquement sur des figures de femmes. Alors justement, voilà que l'exposition, votre exposition vient de se terminer. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les réactions justement?
Le propos, c'était pas tant de montrer des femmes habillées de cuirasses et partant en guerre, mais plutôt de voir quel était le combat des femmes au quotidien et le combat des femmes artistes pour se faire une place dans ce milieu qui n'est pas toujours simple. On n'avait pas le choix que de faire intervenir uniquement des femmes artistes.
Alors, je suis pas totalement d'accord, parce que finalement, un homme aurait pu très bien faire aussi, avoir un avis là-dessus, et aussi faire une œuvre concernant un sujet sur une femme guerrière ou une femme de combat.
Alors, je vous rejoins complètement là-dessus, mais malheureusement, encore maintenant, nous devons commencer par présenter des expositions de femmes exclusivement pour, très rapidement, espérons-le, en arriver à la parité. Et donc, parmi les artistes guerrières, il y avait Orlan, et qui, elle, a un discours très fort sur la question, en disant qu'en effet, elle préférerait ne pas être féministe, mais que nous sommes obligés de l'être, puisqu'il faut continuer le combat, et que la guerre n'est pas encore tout à fait gagnée. Progressivement, on va pouvoir même plus faire de distinction entre le travail d'une femme et le travail d'un homme. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ou moins intéressant que celles qui sont produites par des hommes?
D'ailleurs, on ne devrait même pas se poser cette question en soi.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez entendu comme réaction, justement?
J'avais invité une autre artiste historique, à peu près de la même génération que Orlan, qui, elle, a refusé d'emblée en disant « Je ne participe jamais à une exposition qui enferme les femmes dans des ghettos ». Bon, je comprends tout à fait changer sa position aussi.
Alors, il faut dire qu'en ce moment, depuis un an et demi, il y a un fleurissement d'expositions de femmes artistes, hein, même les institutions s'y mettent. Ça tombait aussi dans un débat actuel, hein, votre exposition. Vous l'avez fait justement en fonction un peu de l'air du temps ou pas ?
En fait, pas du tout, parce qu'on avait commencé à y réfléchir il y a au moins 3 ans. Alors, je pense que notre exposition a été un peu différente dans la mesure où le propos traduisait vraiment cette idée de femmes qui cherchent leur place dans ce milieu qui n'est pas si simple. Alors qu'il me semble que les autres expositions, à part le fait que, en effet, toutes les artistes sont du même genre, c'est pas forcément toujours aussi fin comme réunion.
Cette exposition va se déplacer et va voyager jusqu'à Béthune. Sera présentée donc dans un centre d'art à Béthune qui s'appelle La Banque. Comment vous avez eu contact avec ce lieu ?
Le lieu est magnifique, c'est dans une ancienne Banque de France.
Transformé en lieu d'exposition.
Transformé en centre d'art depuis très longtemps. Et donc on a envoyé le dossier comme ça par hasard. Puis la réponse a été enthousiaste, on était folle de joie évidemment. Parce que l'espace du rez-de-chaussée, c'est vraiment, ça représente l'ancienne banque avec le guichet, enfin, ça a une allure incroyable, puis c'est vaste. Au sous-sol, il y a des salles extraordinaires comme la salle des coffres, la salle des archives, et donc ça va être excitant d'aller présenter des œuvres.
Comment ça se passe quand on veut comme ça, concrètement, hein, parce que c'est vrai que le grand public ne sait pas forcément comment s'organise une exposition. Vous envoyez un dossier, voilà.
Alors moi, je suis commissaire d'exposition indépendante, donc ça veut dire que je ne suis pas du tout attachée à un lieu, donc j'ai une grande liberté de ce côté-là. Après, c'est justement le revers de la médaille, c'est que c'est très difficile de trouver des lieux qui acceptent les expositions. Donc ce que je fais toujours, c'est ça, je monte une exposition en amont, je fais un dossier que j'envoie, et puis j'attends la réponse qui est positive ou négative.
Alors le centre d'art de Béthune, c'est un centre d'art public ?
Il est régi par la municipalité de Béthune. Il y a un budget très intéressant qui permet aux artistes de produire des œuvres et d'avoir une rémunération. Ça, pour moi, c'est essentiel.
Alors parce qu'on parle d'économie. C'est quoi en termes de rémunération? Justement.
Il y a normalement des grilles qui sont sorties. Là, en fait, c'est une enveloppe qui est globale, qui inclut et la production et la rémunération.
Vous pouvez nous indiquer une fourchette de budget, peut-être, à peu près, pour ce genre d'exposition qui inclut combien de femmes déjà ?
Là, il y a 11 artistes. Non, c'est très compliqué parce que quand j'ai demandé à Béthune quel budget ils avaient, ils m'ont retourné la question en me disant quel budget souhaitez-vous avoir ? Donc c'est toujours extrêmement compliqué de savoir comment agir, parce que j'ai demandé aux artistes, est-ce que vous êtes d'accord si on décide que chacune reçoit la même enveloppe ? Et parce que pour moi c'était important d'avoir une sorte d'équité, même si c'est toujours compliqué, parce qu'il y a des artistes qui produisent pas les mêmes choses, et puis il y a une question de notoriété aussi. Et finalement, elles ont toutes été d'accord. Ça a été un petit peu chaud au début, puis finalement, elles ont pensé que c'était la meilleure solution d'avoir chacune la même enveloppe.
Alors ce qui est intéressant et ce pourquoi je voulais aussi vous interviewer, Isabelle, c'est que vous avez un parcours qui est lié quand même à la question de l'artiste femme, de sa place dans le marché de l'art depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venue finalement à vous intéresser, à défendre aussi ces femmes, à être auprès d'elles de manière assez bienveillante et voilà, en essayant de les rendre plus visibles?
C'est très simple. D'abord, au début, c'est parce que je suis une femme moi-même.
Tout simplement.
C'est aussi simple que ça. Et puis, quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art, évidemment, je pense comme beaucoup de femmes, nous avons été surprises du fait qu'il y avait si peu de femmes dans l'histoire de l'art. Donc, où sont-elles passées? Parce que quand même, il y en a certaines qui existaient. Donc, tout d'un coup, on se dit, mais il y a quand même un manque dans cette histoire. Donc, évidemment, en tant qu'historienne de l'art, l'envie était de combler ce manque. Donc, forcément, je me suis beaucoup intéressée à des artistes comme Artemisia Gentileschi et compagnie. Et puis, après, quand moi, j'ai commencé à enseigner, à mon tour, je me suis dit, il faut quand même que je parle des artistes femmes. Et j'ai même aussi construit tout un cours sur l'image de la femme dans l'histoire de l'art. Donc c'était encore toujours une image qui était construite par les hommes, mais ça m'intéressait de la décortiquer. Moi, comme je me suis orientée vers l'art très contemporain, ce qui me plaisait, c'était ensuite de discuter avec les artistes, et j'ai discuté avec quantité d'artistes femmes, et j'ai écouté leurs difficultés à faire une place dans ce milieu-là, pour mille et une raisons.
Et alors vous-même, en tant que femme, donc au sein du marché de l'art, est-ce que vous avez eu des difficultés au début, justement ? Est-ce que vous avez été confrontée à des discriminations de genre ?
Alors, tout au début, j'avais commencé, à la sortie de mes études, à travailler dans le milieu de l'expertise, qui me passionnait. Et on m'a tout de suite découragée en me disant « Mais non, il faut 10 ans d'études, c'est extrêmement lent. Toi, tu vas construire une famille, tu vas avoir des enfants, c'est pas possible, tu peux pas. Bon. » Donc j'étais mais complètement découragée. Et puis je me suis dit, puisque l'expertise c'est très proche de la vente aux enchères, c'est quelque chose qui m'amusait avec tout le jeu de théâtre qu'il y a dans une salle de vente. Donc évidemment je me suis dit, bah tiens, je vais être commissaire-priseur. Et là je me suis rendu compte qu'aussi que c'était un milieu extrêmement patriarcal, que si mon père n'avait pas une charge d'études de commissaire-priseur, j'avais aucune chance. Et ensuite on m'a bien expliqué que physiquement c'était pas possible, qu'il fallait porter des tas de choses, alors que moi j'ai l'habitude de porter depuis que je suis enfant, j'ai toujours transporté des tas de trucs, mais non, on peut pas porter des meubles et des tableaux, vous êtes trop frêles, les femmes, etc. Bon, donc je me suis dit, je suis découragée en tant qu'expert, je suis découragée en tant que commissaire-priseur, qu'est-ce que je vais faire ? Donc évidemment, je me suis tournée vers l'enseignement, parce qu'en effet, c'est idéal quand on a des enfants. Donc voilà, on reste toujours dans les schémas habituels. Mmh. Pour revenir aux remarques sexistes, je me souviens qu'il y a très longtemps, un magazine qui maintenant est très connu, qui a été lancé, j'avais envoyé ma petite lettre, j'étais encore étudiante à l'époque, je prends rendez-vous avec le directeur de la rédaction parce qu'il m'avait répondu positivement, et là, au lieu de commencer à discuter de différents sujets que je pourrais traiter dans le magazine, il m'invite à déjeuner, et pendant le déjeuner, je sens qu'on parle de tout à fait autre chose, et il me raccompagne en voiture, chez moi, en me disant « Ah, à droite, ah tiens, dans cet immeuble, j'avais une maîtresse, ah, dans l'immeuble là, ah ben oui, là aussi, j'ai vécu une histoire d'amour. » Là, j'étais complètement soufflée, et en arrivant devant chez moi, je lui dis, là, vous n'aurez aucune histoire sentimentale dans cet immeuble-là. Et donc, j'ai jamais vu d'article.
Mais qui est cet homme? Merci Isabelle. Alors, vous n'êtes pas la première à nous raconter des anecdotes, donc comme ça, effectivement, puisqu'on a, dans ce podcast, j'ai interviewé beaucoup de femmes. Alors, pour en revenir au sujet de la femme artiste qui vous tient à cœur, il y a aussi cette question assez cruciale de la cote des femmes sur le marché de l'art, étant donné qu'effectivement pendant longtemps plusieurs femmes ont été quand même moins exposées. Alors il y a des exceptions quand même, on va aussi parler on peut parler des très très grandes artistes comme Joan Mitchell ou Shirley Jaffe qui est au Centre Pompidou en ce moment, qui ont quand même bénéficié d'expositions de leur vivant et de belles expositions, et qui ont d'ailleurs le soutien d'hommes, beaucoup autour d'elles pour leur carrière. Mais c'est vrai que il y a aussi cette problématique de dire que la cote de la femme artiste n'a pas pu vraiment se construire normalement. Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle, qui vous intéresse? Est-ce que le fait aujourd'hui d'exposer des artistes femmes jeunes ou en milieu de carrière, les rendre visibles, ça va aussi leur permettre de se faire une cote? Est-ce que c'est important pour vous cet aspect?
Bien sûr, c'est très important. Alors, pour revenir justement à toujours mes débuts qui remontent à un certain temps maintenant, quand j'ai commencé mes études d'histoire de l'art, il était hors de question de parler du marché. Ça, c'était vraiment vulgaire, on parlait absolument pas d'argent. C'était deux choses complètement différentes à dissocier. Et donc, d'un côté, il y avait le monde de l'art et on ne parlait que de choses intellectuelles et intelligentes. Et de l'autre côté, le sale monde qui vendait.
Marchand.
Et bon, c'était même pas envisageable d'en parler, et les artistes, bien sûr, n'avaient pas le droit de parler d'argent non plus. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle quantité d'artistes n'ont pas réfléchi en termes de carrière ou quoi que ce soit. C'était même demander le prix d'une œuvre, c'était le marchand qui s'en occupait, et puis l'artiste n'avait même pas à savoir, ou surtout ne pas s'en mêler. Et donc, je pense qu'en plus, les femmes étaient particulièrement pas bien éduquées dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'aller réclamer de l'argent et aller allait dire je vaux tant. Ça, c'est vraiment les choses, c'était difficile.
Mais on n'est pas doué là-dessus. Oui. Non. Moins que les hommes.
Ouais. Pour le coup. C'est pas qu'on n'est pas doué, c'est qu'on nous a pas appris. Alors qu'on a appris aux hommes. Et on nous a même plutôt appris le contraire. Surtout, ne te valorise pas, ne te mets pas en avant, etc. Bon. Je pense aussi, il y a une autre chose, c'est que nous, en France, on a aussi une difficulté pour être au même niveau que beaucoup d'artistes internationaux. Donc, quand on est femme et artiste française, c'est encore plus compliqué aussi.
C'est bien de le mentionner,
c'est vrai. Et la dernière chose, c'est quand on est artiste qui n'est plus tout à fait jeune. Il y a une traversée du désert quand même qui est très très longue. Hein, ça. Alors il y a Alain Quemin qui parle beaucoup de plafond de verre, c'est très véridique. C'est-à-dire que passer à un certain niveau, c'est très difficile pour une femme d'aller au-delà. Et donc les ventes des œuvres des femmes artistes, bizarrement, sont toujours beaucoup moins élevées que les ventes des hommes.
Alors donc, avec tout ce travail, donc Alain Quemin, hein, qui est ce sociologue, oui, qui a aussi beaucoup travaillé sur cette question, effectivement, donc là, on voit que quand même, ça y est, il y a des collections qui font rentrer des artistes femmes en leur sein. Il y a des institutions qui achètent aussi des artistes femmes, plus, parce que ça aussi c'est important, la légitimation par l'institution
bien
publique,
sûr,
rentrer dans une collection.
C'est essentiel. Et en effet, justement dans cette agora où on a discuté sur ces questions-là, revenait la question de, mais finalement le milieu des collectionneurs est quasiment exclusivement masculin. Donc il faudrait plus de collectionneuses et des collectionneuses qui, pourquoi pas, achèteraient des œuvres à des artistes femmes aussi.
Alors c'est Nazanine Pouyandé, hein, qui est une des artistes femmes de votre exposition, qui avait effectivement soulevé ce sujet-là sur les collectionneuses, et qui est effectivement un angle intéressant dont on parle assez peu, qu'il faudrait peut-être développer en effet.
Alors, et même Nazanine, pour revenir à elle, cette artiste qui représente mais vraiment grande majorité des scènes où, dans lesquelles on voit des femmes, elle disait qu'elle n'est achetée que par des hommes, et pourtant les femmes adorent sa peinture.
Et oui, voilà, il y a un pas encore à franchir. Alors, quelle guerrière vous êtes, Isabelle?
je crois que je suis toujours en combat, mais il y a des moments où je suis un peu fatiguée. Et une des œuvres, d'ailleurs, qui était présentée dans l'exposition, qui est celle de Myriam Mejita, parlait du repos de la guerrière. Et on faisait le constat que malheureusement, il n'existe pas ce repos de la guerrière. On parle du repos du guerrier, mais pas de celle de la guerrière.
Si vous pouviez, pour conclure joliment cette interview, peut-être nous conseiller un livre sur une femme artiste que vous avez lu récemment. Et aussi, pourquoi pas, une exposition que vous avez aimée.
Il y a la biographie de Orlan qui vient de sortir, qui est très intéressante. Moi, je connaissais très bien le travail d'Orlan, mais j'ai appris plein de choses aussi nouvelles. Les dernières expositions que j'ai vues, je ne pourrais pas en citer une en particulier. En revanche, j'avais été déçue par celle que j'avais vue à l'Orangerie à Paris, sur les femmes artistes justement, mais plutôt la période du 17e, 19e, jusqu'au 19e siècle. Il y avait vraiment une réunion d'artistes femmes, certainement, mais je trouvais qu'on aurait pu en dire un peu plus.
C'était plus un catalogue, selon vous, que effectivement un angle précis.
Je pense, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas le tout de réunir des artistes qui sont, dont le seul point commun, c'est leur genre. Il faut avoir à propos pour le défendre.
Merci beaucoup, Isabelle de Maison Rouge. Merci.
Merci, Julie.
Vous venez d'écouter le 13e épisode d'Elles le marché, en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le dernier mercredi du mois à 19h, et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, Ocha ou encore Google Podcast. Elles font le marché, épisode 14, vous donne rendez-vous le mercredi 29 juin à 19h sur Art District Radio et en podcast.